R22 tout le monde, antenne Kiasma.
Ben merci d'être venu dimanche soir par ce temps de pluie diluvien. Quoi. Donc, sans parler de déluge, on va parler de naufragé. Je voulais terminer en fait cette expérience à Kiasma, différentes rencontres, tout ce qu'on a pu opérer ici comme espèce de laboratoire par non pas un naufrage, mais une histoire de reconstruction à partir d'un système en fait qui échouait d'une certaine manière et qui devait se reconstruire. Et c'est pour ça que j'ai invité Dominique Lebrun, écrivain, journaliste, anthologiste, passionné de marine et de récits, à venir nous raconter en fait à partir d'un livre qu'il a édité il y a deux ans, autour de récits, de naufragés, des reconstructions sociétales à partir voilà de cette condition de crise et à un moment de recommencement. Elle s'inscrit aussi par rapport à l'invitation de Dominique qui a engagé de ma part une reconstruction au niveau de l'expo, de l'acte, donc de ce que vous êtes en train de regarder, autour de la, que j'avais évoqué donc à un temps, je répète, de la figure de Pandore comme une alternative à un moment donné à un système prométhéen, précisé, Prométhée, introduit d'ailleurs par Françoise Vergès, qui était la dernière personne qui était venue, la figure prométhéenne comme une espèce de figure d'une, qui représenterait notre un rapport au monde qui n'a pas, d'un homme qui n'a pas de limite, voilà, qui peut accueillir jusqu'au feu des dieux et qui n'arrêtera pas sa course d'une certaine manière. Rien ne l'arrêtera et dans lequel il est clairement anthropocentré. Françoise avait introduit à un moment donné justement une critique de ce système-là et il me semble que la figure de Pandore est une figure intrusive comme ça dans ce système-là et qui va changer la donne, qui va rééquilibrer des forces. Ici, on est plutôt dans un refermement de la boîte de Pandore, puisqu'au fur et à mesure, on ferme, j'ai fermé l'espace et on est dans un obscurcissement pour un nouveau devenir. Donc moi-même, je vais après déplacer cet ensemble des éléments et reconstruire à un moment donné de nouvelles cellules de crise. Voilà. Donc, Dominique.
Merci de m'accueillir parce que c'est des histoires que j'aime bien raconter. Je vais d'ailleurs commencer par vous raconter une histoire qui m'est arrivée à moi. Un naufrage que j'ai raté, un naufrage que je n'ai pas fait. J'aurais dû faire naufrage, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous raconte cette aventure amusante. C'est passé, ça fait bientôt 40 ans, j'étais tout jeune. J'étais chargé d'aller à Minorque, chercher un petit voilier de 8 mètres et quelques pour le ramener à Port-Vendres, où il aurait été gruté et on aurait mis à l'eau un bateau neuf que je ramenais à la place. Ce genre de navigation s'appelle un convoyage. Bien. Pour ce faire, c'était à Pâques, c'était en 1975, au siècle dernier. Je prends un autre équipier avec moi, on était deux, et je vais donc chercher ce bateau. Dès que je l'ai vu, j'ai senti que ça allait être compliqué. Il était très abîmé, le moteur était mort, le réserve d'eau, il y avait une fuite et de toute façon, la couleur de l'eau qui coulait était inquiétante. Manque de bol, je n'arrivais pas à trouver de jerrycan acheté, l'eau minérale n'existait pas dans ce coin. Le gaz ne fonctionnait pas, donc on mangerait froid. Et le radeau de survie, si d'aventure il en avait besoin, il était ouvert, le conteneur était ouvert, la bonbonne d'air comprimé dedans était morte. Bon. Quand on est jeune, on s'inquiète peu de ce genre de choses. On est immortel, c'est bien connu, d'ailleurs, la preuve. Et donc, nous voilà partis. Mon idée était la suivante. Je faisais le tour de Minorque en utilisant les brises qui tombent la nuit. Là, je traversais directement vers la Costa Brava. Je remontais à la Costa Brava et puis c'était fait. Et c'est bien ce qui s'est passé, d'ailleurs. Alternance, les brises de terre et brises de mer, comme on raconte dans le livre de géographie. Et puis, arrive au bout de 3 jours de navigation, le cap qui sépare la partie Costa Brava de espagnole du début de la France, qui s'appelle le cap Creus. Et puis, il est peut-être 10-11 heures du soir, il fait nuit. Et le vent forcit comme dans un livre de navigation, comme un manuel où on apprend à naviguer, c'est-à-dire de façon constante. Et puis, donc, on réduit la voilure. Alors c'est très drôle parce que quand on fait des cours théoriques, on dit on commence par réduire le génois, qui est un grand phoque, on le remplace par un phoque numéro 1 qui est plus petit. Après, on prend un riz dans la grand voile. Après, on met le phoque numéro 2. Et puis, j'étais en train d'enchaîner toutes ces manœuvres de changement de voilure, mais à peine j'avais réduit, je continuais. Et arrive le moment où je me trouve à l'aube, en face de Port-Vendres où j'allais entrer, avec juste un tout petit tourmentin devant, une mer extrêmement creuse, donc jouant aux chevaux dans les vagues, comme ça. Mais ça se passait bien, hein, pas d'inquiétude majeure. C'était costaud quand même, mais le port était là. Je vire de bord et je suis comme ici, visant le bout de la pièce là-bas. Pour vous donner la notion de distance, je voyais les gens sur les terrasses de café. Et le vent forçait un tout petit peu, et là je suis pris d'une préscience. Je me dis, si d'aventure il forçait encore un tout petit peu, je ne peux plus tenir mon cap, je tombe sur la falaise. Et là, on s'explose, on est mort. Donc, je vire de bord cap au large. Et puis, quand le temps se calmera un petit peu, on entrera au port. Bon, j'ai touché terre 12 jours plus tard, après avoir chaviré à peu près une dizaine de fois et été assis sur le plafond de la cabine de mon bateau, donc le machin à l'envers, l'oma comme ça, 3 fois, avec l'eau qui pissait sous pression. On est sorti de la zone de tempête. Du coup, j'ai pu monter sur le pont avec mon sextant pour faire une vague d'altitude. C'est très marrant, c'est facile à faire. Ça, c'est à midi, ça arrive au plus haut, on voit à peu près où on est. Bon. J'étais pas loin de la Sardaigne et il fallait que je rentre vers les Baléares. À boire, il n'y avait plus. Et à manger, c'était une biscotte pour deux, pour les 2-3 jours qui nous restaient. Et il y avait quelque part dans le bateau une boîte de pâté. Petite boîte de pâté, on le savait, on ne l'a jamais retrouvée, mais qu'importe. Bon, toujours est-il qu'on rentre et fin de l'histoire. Juste un gag, on était affamés évidemment, on se précipite dans un restaurant, on commande, là, je vois encore le steak qui m'arrive avec une montagne de frites. Arrivé à la première frite avalée comme ça, je ne pouvais plus rien manger. Ben oui, l'estomac c'est un muscle, il s'était retréci, et donc c'est l'horreur. Quand on a faim, on a envie de manger, il y a à manger, mais on ne peut pas. Je rentre de cette affaire avec ce bon camarade où il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Et c'est en discutant, et c'est comme ça qu'on arrive à notre sujet, c'est en discutant ensuite avec des gens, c'est en vivant d'autres aventures en mer ou à terre, que je me suis rendu compte que cette aventure assez prodigieuse qu'on a vécue s'est passée comme si on avait fait une traversée absolument normale, du simple fait qu'on était seulement deux, qu'il y avait un rapport de celui qui sait et de celui qui ne sait pas, c'est-à-dire mon équipier qui savait un peu, mais pas assez, qui savait que je savais qu'il me faisait confiance et moi j'avais confiance en son sang-froid. Voyez, dans quoi il ne s'est rien passé. Si on avait été trois, c'est-à-dire si ça avait été le début d'une société, là, ça devenait compliqué. Parce que quand on est trois et que deux causent ensemble, le troisième se demande ce qu'ils disent, les deux autres. Et quand on est trois, c'est la place au début du scepticisme, du doute. Et sur du temps qui dure au-delà de quelques journées, ça peut devenir explosif. Ça commence par une phrase incidente. Tiens, à propos de... Est-ce que tu penses vraiment que... C'est le début de la fin, ce genre de choses. Donc, les histoires que maintenant je vais vous raconter, je les ai étudiées avec ce background, cette expérience personnelle que j'avais, d'avoir compris à quel point... Lorsque une situation devient grave, lorsqu'une situation passe de la vie à la survie, à quel point la notion de groupe, la notion de hiérarchie ou d'absence de hiérarchie, la notion de confiance prend des proportions terribles. Et puis donc, le temps passe, et puis un beau jour, mon éditrice déléguée, puisque donc je suis Omnibus, où je publie 2 ou 3 machins comme ça, entre 1 et 3 comme ça par an depuis l'an 2000, sur tous les thèmes maritimes, me dit on va faire une anthologie sur les naufrages. Ce à quoi je lui réponds, les naufrages, ça ne mènera pas à grand-chose. Un naufrage, c'est le Titanic, le bateau, il coule, et après. En revanche, il y a beaucoup plus intéressant, c'est les naufragés. Qui dit naufragés, ce sont les gens qui échappent au naufrage. Et le plus intéressant, c'est lorsque ces naufragés touchent la Terre, mais que la Terre n'est pas la civilisation. J'avais annoncé ça sur un ton un peu doctoral, comme ça, très, très sérieux, en pensant à Robinson Crusoe et en pensant qu'il y avait une chose qu'on appelle la Robinsonade. La Robinsonade est un style littéraire, figurez-vous, qui est né avec Selkirk, Robinson Crusoe, mais qui a été développé à la fin du 19e siècle, notamment avec ce pasteur suisse qui a écrit les Robinson suisses. Et puis après, Robert Merle l'a pris, Arto Paasilinna l'a fait aussi. Et ce sont en fait des romans qui répondent tous à un vieux fantasme qu'on a tous, nous les mecs, les machos, virils, costauds. C'est un jour d'entrer dans une forêt avec sa hache et sa scie sur l'épaule et puis de couper des arbres pour fabriquer sa maison, quoi. Quand on est sur une île, c'est encore plus fou. Et l'idée, donc le rêve de tout le monde, de se retrouver un jour en situation de quitter tout ce qui a pourri notre société, le fisc, le téléphone, le portable, l'ordinateur, n'importe quoi, ma belle-mère, enfin la totale, quoi. On repartir de rien, tout reconstruire soi-même pour que ce soit impeccable, tip-top, c'est le fantasme qu'on a tous. Quand on essaie de le faire, ça tourne souvent vinaigre, mais quelquefois ça tourne aussi miraculeusement bien. Et ce sont deux histoires que je vais vous raconter là. Alors rassurez-vous, j'ai des petites fiches, c'est juste pour être sûr de rien oublier. Je ne vais pas vous faire le coup du cours magistral. C'est par exemple les dates. Je suis très nul sur les dates et sur les noms encore pire. Alors je vais commencer par vous parler de l'histoire de l'aventure. L'aventure, c'est le nom d'une goélette. Ça se passe en 1825. Et c'est une goélette qui s'est naufragée sur l'île Crozet. Alors évidemment, ne me prétendez pas que vous savez où c'est l'île Crozet. Ou alors, je me demande pourquoi vous êtes ici ce soir, vous devriez y être. L'île Crozet, ça se trouve exactement à 2900 km plein sud de Madagascar. Alors, voilà ma petite carte ici. Madagascar, voilà Madagascar. Crozet, c'est là, le bout du monde. Je ne vous raconte pas le climat qu'il fait sur Crozet. Qu'est-ce que ces gens allaient faire sur Crozet? Eh ben, en fait, c'est plein de phoques et de lions de mer là-bas. Ils allaient, avec une montagne de tonneaux, faire une récolte de graisse, tout simplement. L'idée était qu'ils arrivaient là-bas, remplissaient le bateau, et puis ils revenaient avec leur goélette. Bon, 2900 km, ça fait 1600 000 marins. À l'époque, on considère que, bon an, mal an, 5 nœuds de moyenne, une traversée comme ça, ça risquait de faire 15 jours. Mais dans ces coins-là, on multiplie volontiers par deux. Et bien, ce qui va leur arriver, c'est qu'ils vont en fait mettre 25 jours à faire la traversée. Autrement dit, quand ils arrivent, ils n'ont pratiquement plus d'eau. Le problème, c'est que lorsqu'ils arrivent devant Crozet, il y a une tempête terrible, ils n'arrivent même pas à débarquer. Ils restent encore en vue de terre. Il n'y a plus rien à manger, il n'y a pratiquement plus rien à boire, il faut débarquer. Ben en fait, ils ne débarqueront pas parce que le bateau est jeté à la côte. Il a mouillé l'ancre, il est devant la côte, le vent forcit un peu, l'ancre ne tient pas, le bateau dérape, il touche des cailloux. Tout le monde se retrouve donc à terre. Problème, c'est qu'à Crozet, personne ne vient à Crozet. Donc, ils savent qu'ils sont là pour longtemps, longtemps, longtemps. Qui pourrait les sauver? Ça pourrait arriver, ils le savent, des baleiniers. Les baleiniers naviguent sur toutes les mers, souvent s'arrêtent dans les îles pour chercher de l'eau, justement, donc peut-être que. Mais honnêtement, ils ont fort peu de chances d'arriver à quoi que ce soit. Ce qui va se passer, c'est que ces gens vont comprendre tout de suite qu'ils sont passés dans un autre monde. Ça va les sauver. Et ça, c'est une interrogation qui m'est apparue sur toutes les histoires de naufrages. Lorsqu'il y a un naufrage comme celui-là, il y a deux possibilités. Ou bien les gens comprennent qu'ils sont dans une situation désespérée, mais qu'on peut toujours s'en sortir. Ou bien, à l'inverse, ils pensent que la situation n'est pas si grave que ça, ils la laissent dégénérer et ils en meurent. Bon exemple, le radeau de la Méduse, qui est une autre histoire, on en parlera peut-être. Si à 10 heures du soir, on y est toujours, on passera au radeau de la Méduse. Alors, les personnages qui sont concernés dans cette histoire sont assez passionnants. Le héros qui a écrit d'ailleurs l'histoire en rentrant, c'est un breton de Roscoff qui s'appelle William Lesquin. Il est chef de l'expédition, c'est lui qui a porté l'argent pour monter l'opération Graisse de Phoque. Et il a un capitaine, un anglais, Mr. Fotheringham. Et puis, ils ont 14 hommes d'équipage. Dès le début du naufrage, il y a un petit accident stupide qui arrive. 9 de ces personnes montent sur une embarcation qui n'est pas abîmée pour essayer d'aller chercher de l'eau à côté. Ils partent, ils ne reviendront pas. Ils se retrouvent isolés sur une autre île. Ils seront sauvés ensuite, mais du coup, ils se retrouvent seulement, finalement, à 5 personnes, 5 matelots, avec leurs deux chefs. Et là, tout de suite, c'est assez étonnant, un peu comme dans les romans de Jules Verne, ce groupe, il ne se scinde pas tout à fait, mais on a cinq personnes qui sont les matelots, qui font confiance à leur chef pour les sauver et qui entrent dans un comportement complètement passif. On nous commande, on obéit, mais il n'y aura pas la moindre initiative. Alors, en revanche, les chefs, eux, de l'initiative, ils en ont et ils ont des réflexes humains complètement fous. Première chose qu'ils font, ce que dit le capitaine du bateau et le chef de l'expédition, nous allons tracer la carte de l'île. À quoi ça sert, tracer la carte de l'île ? Eh bien, c'est la clé de la survie. Nous faisons la carte de l'île parce que nous ne sommes pas les victimes de cette île, nous sommes en train de la conquérir. Ça t'intéresse, hein ? Vous imaginez donc des gens qui sont des victimes et qui ont le réflexe, parce que ça, c'est un réflexe, c'est fabuleux, de dire, mais non, on n'est pas des victimes. Nous sommes en train de conquérir cette île. On va en faire la carte. Deuxième point, assurons notre survie. Et là, ils ont une idée de génie. Il y a des nids d'albatros. Vous savez, les albatros sont ces oiseaux de mer qui, dans l'envergure, atteignent presque 3 mètres. Ils vont dans les nids, réussissent à prendre des petits albatros et à attacher à leurs pattes des messages. Parce qu'ils savent que les albatros, souvent, sont chassés par les baleiniers. Et sur le message, il y a « Nous sommes coincés sur l'île Crozet avec la date ». Personne ne trouvera jamais de message, mais le fait, ils le font. 100 jeunes albatros ont porté un message des naufragés de l'île Crozet. Et puis ensuite, le problème, c'est que le temps passe. C'est terrible. L'hiver arrive. Ils ont épuisé assez rapidement ce qu'il peut y avoir comme vivre à récupérer, c'est-à-dire des traces de lichen, des coquillages au bord de l'eau, tuer quelques phoques, mais qui du coup deviennent méfiants. Et puis arrive l'hiver, et là, la tenue du groupe vacille. Il y a au sein des cinq matelots des scissions, peut-être dues à des différences de nationalité, qu'importe. Et arrive un moment, ils décident de vivre ensemble, séparés des chefs. Là, on arrive un peu à une espèce de révolution du peuple contre l'aristocratie. Et alors là, c'est affreux ce que je vais vous dire, parce que vous allez me taxer d'horribles personnes d'extrême droite, mais le peuple, sans l'élite aristocrate pour le mener, le peuple ne s'en sort pas et au bout de quelques semaines, demande à rejoindre la maison. Alors là, il est possible que le témoignage du garçon qui raconte ça soit un peu faussé, mais mon Dieu, pourquoi pas. Toujours est-il que ils vont décider un jour quand même qu'il ne se passera rien, mais quand je dis un jour quand même, c'est quelques mois plus tard, et de tenter une opération suicidaire, c'est-à-dire à partir du canot qui restait de leur goélette, de l'agrandir et de faire un bateau capable de prendre la mer et d'aller chercher du secours avec les deux meilleurs navigateurs à bord. Et la chose est ainsi faite que le jour où ils prennent cette décision, où ils ont fait les plans du bateau, où ils ont commencé à l'agrandir, où ils y croient, une voile arrive, c'est un baleinier, et ils sont sauvés. Et ici donc s'arrête l'affaire de la goélette aventure. Juste pour le suspense, si vous décidez de mettre ça au cinéma, le baleinier va apparaître et disparaître 3 fois, ne jamais voir les signaux qu'on lui fait, et finir la 4e fois seulement pour mettre une embarcation à terre pour les récupérer. Donc là, on a, avec l'aventure, une histoire qui est belle, sympathique, mais qui n'est pas positive complètement. Ce désaccord entre, appelons ça la base et les syndicats, ou entre le petit peuple et l'aristocratie, a quelque chose d'un peu grinçant, peut-être. Du coup, j'ai une histoire qui, elle, est beaucoup meilleure. Alors attention, ce que je vous raconte là est vrai. Et ce que je vous raconte ici est tout à fait aussi vrai, sauf que ce que je vais vous raconter maintenant paraît totalement incroyable, parce que si Jules Verne avait voulu en faire un roman, il n'aurait jamais été jusque-là. C'est l'aventure du Grafton. Le Grafton, c'est aussi une goélette. C'est pas des bateaux très grands, hein, 25-30 mètres de long. Et ce que je vais vous raconter se passe sur l'île Auckland. Vous savez que Auckland est la capitale de la Nouvelle-Zélande, mais Auckland est aussi le nom d'une île qui se trouve dans le sud de la Nouvelle-Zélande, pas très loin, elle est là, en bas de la carte, là, ici. Et la Nouvelle-Zélande est en orange au milieu. Si vous voulez bien mettre votre doigt un peu au sud de la Nouvelle-Zélande. Bon, vous tenez la carte et je mets mon doigt sur le sud. Voilà. La Nouvelle-Zélande est ici. L'île Auckland est là. Et je vous raconte toute la fin de l'histoire. Ils feront la traversée sur un tout petit bateau qu'ils ont construit. Et ils le feront sans problème majeur. Mais revenons à notre histoire. Le Grafton. Alors le Grafton, bah, déjà le héros de l'affaire, celui qui raconte, qui nous raconte l'histoire, il s'appelle, déjà le nom, on est en du Jules Verne, il s'appelle François-Édouard Raynal. Et l'histoire de François-Édouard Raynal, c'est le fils d'une famille de petits rentiers du sud-ouest de la France. Et puis, mauvais placement, la famille est ruinée. Il faut qu'il aille travailler. Non, c'est drôle, on se croit dans un roman. Il faut qu'il aille travailler pour gagner de l'argent. Il devient officier de marine marchande, ce qui est très bien. Mais il se rend compte que son but, c'est de refaire la fortune familiale. Il se rend compte qu'officier de marine marchande, ça ne le fera pas. Donc, il va chercher de l'or en Australie. Il n'en trouvera pas. Il réussit quand même à accumuler un petit magot. Et juste avant de partir, on lui propose un plan infernal. Il s'agirait d'aller sur Auckland, donc l'île que je viens de vous montrer, là, perdue au sud de la Nouvelle-Zélande, où il y aurait une mine d'argent abandonnée qui serait à remettre en service. Et puis, bah, pour ça, on le paye. Hein. Et puis, si d'aventure, la mine n'existait pas, eh ben, on prend des barriques et puis on fera la chasse aux phoques pour la Grèce. Donc, ce que vous devez faire, l'aventure aussi. Ils partent, et puis ben, même aventure que précédemment, mouillage, tempête, bateau jeté à la côte, naufrage, ils sont coincés sur l'île. Alors, l'équipage est extraordinaire. Donc, je vous ai parlé de François-Édouard Raynal, qui est donc le chef d'expédition, c'est le narrateur. Le capitaine du bateau, c'est un Américain. Alors là, mais si on voulait faire un film, vous allez forcément trouver un acteur qui serait parfait dans le jus. C'est un Quaker, caractère moral très carré, béton, qui s'appelle Musgrave, Captain Musgrave. Et puis l'équipage. Alors l'équipage, ça fallait quand même le trouver. Il y a Harris, qui est un Anglais flegmatique, par l'argot de Londres, un cockney pur jus. Sympa, le flegme britannique, quoi. Alik. Alors Alik, lui, c'est un colosse, un Norvégien, illettré, un sauvage absolu. Un loup de mer, une bête, quoi. Mais, j'ai écrit ceci, débrouillard et généreux. Et puis le troisième, c'est Forges. Lui, il est portugais. Il est défiguré par la lèpre. C'est le cuisinier du bord. Et c'est celui qui ne sait rien, qui est donc l'abruti parfait, sauf qu'il comprend tout avant tout le monde, quoi. On n'aurait jamais osé mettre tout ça dans un roman parce qu'on dirait, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Vos personnages, ils sont outrés. Personne ne pourrait y croire. Et pourtant. Alors, ce qu'ils vont faire, eux, eh ben, le premier réflexe, curieusement, eux aussi, ça va être de faire la carte de l'île. Même réflexe. Et ils ne connaissaient pas l'histoire précédente. Donc, c'est quand même quelque chose potentiellement d'inné, de cette idée de on est quelque part, on en fait le plan pour se l'approprier. On n'est plus les victimes de ce lieu, nous en sommes les maîtres. Mais ils iront beaucoup plus loin. Ils savent très très vite qu'on ne viendra pas les chercher. En principe, il est prévu que dans 9 mois, s'il n'y avait donné pas de nouvelles, un bateau passerait par là, mais ils sentent bien que ça ne se passera pas comme ça. Ils savent très très bien qu'il va falloir qu'ils restent ensemble très longtemps. Et là, ils ont tout de suite un réflexe plus humain et social que technique, c'est de maintenir la cohésion du groupe, de maintenir la civilisation. Ils vont dépenser des efforts énormes pour retourner à bord de l'épave pour récupérer, vous savez quoi, des miroirs pour se voir, pour pouvoir conserver d'eux-mêmes une image respectable et donc pouvoir vivre ensemble les uns à côté des autres. Chercher le miroir, il fallait y penser. Ils iront bien plus loin que ça. Lorsqu'il va falloir se construire un abri, ils vont dire, attendez, on va pas faire une cabane. On va faire une maison, une vraie de vraie. Et ils en font des plans et ils partent non pas, comme on ferait par réflexe, du toit, ils partent du foyer. Très intelligent, ils construisent un véritable four qui est une véritable cabane à elle-même. Tout de suite, ils organisent des espaces où chacun ait son petit bout de chez lui. Ils font en sorte qu'il n'y ait pas le moindre désordre. Ils trouveront le moyen, au bout de quelques mois, de retrouver la recette pour fabriquer du savon en faisant brûler du goémon, duquel ils sortent de la soude, qu'ils vont mélanger avec de la cendre de bois pour faire une espèce de pâte qui leur permet de se laver. Et le moment hallucinant de cette histoire, c'est le jour où ils font chauffer de l'eau pour chacun prendre un bain. Ça paraît énorme, ces gens qui sont perdus au bout du monde et qui vont tenir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont visé tout de suite au vrai confort humain qui les remet à leur niveau de vraie personnalité et non pas d'hommes devenus animaux cherchant à se sortir des vicissitudes de la nature. Ça, c'est absolument grandiose. Alors évidemment, très vite, ils comprennent qu'il faut réussir à... Comment dire ? S'il y a un différend, il faut trouver le moyen de le résoudre. Ils établissent un règlement. Et ils se rendent compte qu'un règlement, alors là, ce sont des, essentiellement, ils sont plutôt anglo-saxons, donc ils n'ont pas la logique du droit latin, ils ont plus la logique du droit anglo-saxon qui est basée sur une interprétation plutôt qu'en droit latin où on fixe tout. Donc, il faudra quelqu'un qui décide, eh bien, il décide de se choisir, non pas un capitaine, non pas un chef, mais un père de famille. Et il l'élise. Et ce sera, en définitive, le capitaine. Mais il a été élu. Et puis après, ben, ils vont encore plus loin. Un jour, ils trouvent le moyen de fabriquer un jeu de cartes. Et puis ça ne rate pas, la première partie de poker, ils s'engueulent. Le règlement prévoit que les jeux de cartes sont interdits. Bien entendu, ils vont faire en sorte de pas, surtout pas distiller quoi que ce soit. De toute façon, il n'y aurait pas trop le choix, parce qu'ils savent que l'alcool serait mortel. La question ne se posera pas. Et puis, un an se passe et arrive... Alors, ce que je vous raconte, c'est l'histoire vraie. Hein. Arrive le soir de Noël. Sale moment pour le capitaine qui a une famille. Une famille dont il ne sait pas comment elle peut survivre sans sa paye de capitaine, qui le croit mort, il a même des gamins. Et le capitaine, il faiblit. Le moral est très, très bas. Il est vraisemblable qu'il se laisse aller à quelques pleurs, puisque l'équipage a un sursaut terrible. Ils disent, puisque c'est comme ça, on va construire un bateau pour entrer. Construire un bateau. Certes, il y a du bois de l'épave, des outils, il n'y en a pratiquement pas. Il va falloir aussi des pointes et des clous. Et puis, ça entre dans un jeu complètement dingue. Il faut des pointes, ben, il faut des bouts de métal, il faut des bouts de métal, il faut les forger. Ben, on va faire un four, on va faire une forge, mais pour faire une forge, il faut un soufflet. Ben, et ils vont tout reconstruire. Tout, absolument tout. Et réussir à partir du canot du bord à fabriquer un bateau un petit peu plus grand. Et à partir de ce bateau un petit peu plus grand, eh bien, les deux meilleurs marins qui sont volontaires vont faire la traversée, rejoindre la Nouvelle-Zélande, et on viendra les chercher. C'est donc la fin de l'histoire du Grafton. Alors, ce qu'il y a de plus étonnant dans cette affaire, ce que je ne vous ai pas dit le plus beau là, c'est pourquoi ils ont tenu, finalement. Eh bien, c'est parce qu'ils ont réussi à créer une égalité humaine totale. Et vous savez comment ils l'ont fait ? Ça, c'est quand même magique. Les deux chefs ont décidé d'apprendre à lire et à écrire à leurs matelots, incultes. Mais ça, c'est facile, c'est à la portée de tout le monde. Ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, c'est qu'ils ont dit aux Portugais et aux Norvégiens, attention, moi, je vous apprends à lire et à écrire, mais vous, vous m'apprenez votre langue. C'est-à-dire égalité du savoir. Nous, on a été éduqués, on sait lire et écrire, vous pas, on vous l'apprend. Mais nous, on connaît pas, on ne sait pas parler portugais, on ne sait pas parler norvégien, vous allez nous l'apprendre. Et cette égalité, avoir songé à rétablir cette égalité humaine, qui est très certainement la plus difficile à obtenir, m'apparaît comme peut-être le chef-d'œuvre absolu de la cohabitation entre individus. Pour le reste, ce qu'il y a d'assez fou, c'est que j'ai repris techniquement la question de la construction de ce petit bateau pour aller chercher du secours. En réalité, personne n'y croyait. Mais le seul problème, c'est qu'à force de ne pas y croire et d'avoir pour but d'y arriver, c'est que ça finit par se faire. Et le plus beau, c'est que la traversée, qui était quand même extrêmement difficile, s'est faite sans problème majeur. Donc ça, c'était les deux histoires de civilisation refaite. On peut faire une escale, si vous voulez, qu'on en parle plus par le détail. Et après, je partirai sur deux autres expériences qui, elles, se passent sur la banquise et la navigation, qui sont tout à fait une autre histoire. Est-ce que pour le moment, vous voulez qu'on aille plus loin dans l'histoire du Grafton et de l'aventure ?
La question peut-être qui pour rejoindre les questions qu'on s'est posées aussi avec Vincent sur cette exposition-là et qui traverse tout ça, c'est de s'interroger sur dire qui raconte ? Alors, qui raconte ces histoires-là ? Parce qu'elles viennent à nous, et forcément, elles viennent à nous à travers un filtre qui est le narrateur.
Alors, donc, dans les deux cas, ceux qui savent écrire, déjà. Donc, Rénal, lui, c'est assez étonnant, à peine rentré en France, il écrit et s'est publié. Et il écrit, en fait, son récit pendant la traversée de retour. Et c'est publié dès qu'il arrive en France dans une revue littéraire bretonne, d'ailleurs. Et c'est comme ça que je l'ai retrouvé. C'est un texte qui est très peu connu. Concernant le Grafton, en revanche, le texte a été écrit par L'aventure a été écrit par William Lesquin et qui rapporte son texte tout de suite. Et l'affaire du Grafton, dans Grénal, l'a écrit quelques mois plus tard. Donc, du coup, on serait tenté de penser qu'elle a pu être enjolivée, modifiée, etc. Si c'était le cas, je pense que ça n'aurait pas été enjolivé dans ce sens-là. Mettons-nous dans cette époque de fin du 19e, racontant une histoire donc de bourgeois établis avec des matelots incultes, c'est tellement bien de se mettre en valeur en disant qu'on leur a appris à lire et à écrire, mais oser dire qu'on leur a demandé de leur apprendre leur langue, surtout la langue de sauvage, le portugais, le norvégien, vous vous rendez compte, quelle horreur, à côté du français et de l'anglais. Cher monsieur, je ne vous le demande pas. C'est pour ça que je pense que c'est totalement authentique. Là, et par ailleurs, dans les démarches de construire une vraie maison, ça pourrait ressembler du Robinson Crusoe, mais en fait, non, je pense que c'est du réflexe de l'instinct de survie poussé à l'ultime. Et ce réflexe est assez étonnant. Après, dans beaucoup d'histoires comparables de naufrages, on a vu, chose tout à fait étonnante, des individus que rien ne prédisposait à être héroïques, fins, intelligents, astucieux à le devenir, alors que des gens qui étaient supposés être des chefs, des commandeurs, des dirigeants, des officiers, se montraient sortis du cadre qui faisait d'eux des chefs, des gens absolument ineptes.
Oui, c'est ça. Je voulais me demander c'est dans quelle mesure ces deux histoires-là participent de catégories d'histoires, parce que j'imagine, comme vous avez traversé beaucoup de types de récits, est-ce qu'il y a des grandes familles, et ça, c'est des exceptions, oui. Ou alors des espèces de dans la trame de ceux qui se...
Dans l'anthologie que j'ai rédigée là, j'ai d'autres récits qui se sont passés très mal, alors que ça aurait pu se passer très bien. Je ne pensais pas vous en parler ce soir, mais on va le faire. Je vais vous parler des naufragés du Batavia, épouvantable histoire, et je vais vous parler du radeau de la Méduse. Après, on ira peut-être au pôle si on a le temps. Alors, l'affaire du Batavia, ça se passe au XVIe siècle. C'est l'époque où donc la Hollande a colonisé l'Indonésie avec les fameuses Moluques, avec des îles aux épices. Et donc, tous les ans, il y a une flotte de galions qui se rendent des Pays-Bas aux Moluques, à Batavia. Et pour ça, la méthode de navigation à l'époque est assez simple. Ça consiste à descendre de l'Afrique, on passe le cap. Là, plein est, on traverse l'océan Indien. Brusquement, il y a une côte devant vous, c'est l'Australie. Alors là, on prend la première à gauche. Et puis, comme le vent permet à peine de le tenir, on monte, on monte, on monte. Quand on voit une côte, on la suit. Et dès qu'il y a un trou dedans, première à droite, Batavia est juste derrière. Je vous le raconte comme ça, mais à l'époque, on naviguait de cette façon-là. L'Australie, c'est pratique, c'est très grand. Et puis, sur le Batavia, il y a un truc bizarre. On n'a jamais su exactement ce qui s'est passé. Mais il y avait un personnage extrêmement dangereux qui a manifestement fomenté une espèce de mutinerie, en tout cas, qui a fait en sorte que le bateau vienne s'échouer sur l'archipel des Abrolhos, qui se trouve au large de l'Australie. Et puis, on ne sait pas pourquoi. Le fait est que le Batavia s'échoue. La situation n'est pas dramatique, parce que les Abrolhos sont assez grandes. On peut y trouver de l'eau douce et armer les grandes embarcations du bord pour rejoindre Batavia, pour aller chercher du secours, n'est pas un gros problème. Mais ce type qui a provoqué le naufrage, tout en parlant, j'ai son prénom en tête, il s'appelle Cornelius. Hieronymus Cornelis, voilà. Hieronymus Cornelis, si je ne me trompe pas, est en fait un psychopathe qui va générer un massacre généralisé entre les naufragés à terre, avec le clan des tueurs et le clan des tués. On ne sait pas comment ça se passe. Ça se passe comme ça et ça se déclenche après que le capitaine du bateau soit parti avec la grande chaloupe chercher du secours à Batavia. Et la chose stupéfiante, c'est que donc, de Batavia revient le commandant du bateau et puis un bateau de secours. Et il découvre le drame et là, immédiatement, faut punir. Et là, ils enclenchent les procès. Le premier gros souci qu'ils aient, c'est de construire un gibet assez grand pour pendre tout le monde comme il faut. C'est donc une situation où ça aurait pu se passer normalement très bien. Au moment précis où le bateau est échoué, où le naufrage commence, la hiérarchie du bord explose. Les matelots n'obéissent plus. Non, c'est complètement fou. C'est au moment précis où la discipline serait la plus utile pour sauver ce qu'il y a à sauver qu'elle part en lambeaux. Ça se passe au XVIe siècle. Maintenant, je vais vous ramener à l'affaire de la Méduse, qui se passe en 1816. L'affaire de la Méduse, c'est celle qui inspira Géricault, le fameux tableau. L'affaire de la Méduse, à la Restauration, qui est une histoire comparable de différents points de vue. Là, le naufrage, en fait, est dû à l'incompétence du commandant, un certain Chaumaret, qui est un officier royaliste qui a immigré, qui s'est planqué à l'étranger pendant la Révolution à l'Empire, qui revient avec la Restauration, et puis qui est rétabli dans son rôle de commandant. Il a pété en mer depuis 20 ans, mais on lui file quand même le commandement d'une grosse régate avec 300 personnes à bord, et route sur le Sénégal, l'embouchure du Sénégal, que, suite au traité 1815, l'Angleterre a rendu à la France. Très bien. Il y a un bateau qui n'est avec eux, une corvette qui est plus rapide. Et puis, Chaumaret, je ne vais pas vous raconter ça en détail parce que ce serait trop lourd, suite à une série d'incompétences terribles, ne faisant pas confiance à son état-major, met son bateau au sec sur le banc d'Arguin, qui est cet immense banc de sable au large de la Mauritanie. La situation n'a rien de dramatique. Un bateau qui s'échoue comme ça, le déséchouer, c'est parfaitement possible. Mais au moment précis où se fait l'échouement, pareil, la discipline explose. C'est-à-dire, l'équipage n'obéit plus au commandant, mais le commandant ne sait pas commander de toute façon. Ça aboutira à la fabrication de ce radeau, centaines de personnes qu'on met dessus, qui s'entretuent pour avoir plus de place, et un nombre de morts invraisemblable, 200 morts, je crois, alors que, a priori, tout le monde aurait dû s'en sortir vivant. Et donc là, on a deux situations complètement opposées, et que donc j'ai opposé dans mon anthologie, les cas où la situation n'est pas très grave. En plus, c'est dans un cadre militaire. Un cadre de marine, il ne peut pas y avoir le moindre problème. Le capitaine, le second, les lieutenants, il y a une hiérarchie absolument stricte, et eh bien ça explose. Alors que donc, avec le Grafton et la Jeannette, on a des bateaux de petite marine marchande, alors très exotiques, avec des équipages un peu de briques et de broc, et eh bien là, il n'y a pas besoin de discipline. Ils s'arrangent parfaitement entre eux et ils s'en sortent. Ce qui est donc un très grand... Pour moi, ça reste un très grand mystère. Je sais que pendant très longtemps, ce qui nous ramène peut-être à évoquer la question du naufrage en tant que phénomène, on savait, depuis que l'homme navigue, que quand on va sur la mer, il y a deux aléas possibles. Il y a les pirates et puis il y a le mauvais temps qui entraîne le naufrage. Donc le naufrage, il est presque normal. À l'époque où à Terre-Neuve, on naviguait avec des petits bateaux de 6 mètres à partir d'un groupe pour aller chercher, mettre des lignes et ramener les morues. On savait qu'on avait quoi, une chance sur 5 ou 6 un jour de s'égarer, d'être emporté au large et de pas revenir. Ce n'est pas pour autant qu'on faisait en sorte d'avoir une réserve d'eau douce à bord et d'être sûr de son compas de route pour retrouver le bateau. Ça faisait partie des aléas. Voilà, une espèce de... c'est le destin, c'est comme ça. C'est seulement pendant la Seconde Guerre mondiale qu'on a commencé à théoriser des questions de survie, c'est-à-dire les réflexes à avoir, à gérer les questions de hiérarchie, les questions humaines, les questions de savoir comment faire par rapport à l'impossible. Mais avant, on n'y pensait pas. Et donc, il y avait ceux qui avaient l'instinct pour le faire et ceux qui ne l'avaient pas. Alors, allons au pôle. Nous irons au pôle Nord et au pôle Sud pour deux histoires. Alors, Ces deux histoires ont en commun ceci. Lorsque on mène une expédition polaire, la première d'entre elles se passe à la fin du 19e, l'autre en 1914. À cette époque-là, les bateaux sont des voiliers avec une machine à vapeur qui, pour ces expéditions, vont courir le risque, mais ça c'est un risque prévu dès l'origine, d'être pris dans la banquise. Si on est pris dans la banquise, eh ben, on attend que l'hiver se passe et l'été suivant, on espère que ça fondra assez vite pour s'en dégager. Quelquefois, il se passe deux choses. Soit l'été suivant, le beau temps n'est pas suffisant pour que la glace fonde et on part pour un deuxième hiver, ou un troisième, c'est arrivé. Soit pendant l'hiver, la glace s'accumule autour du bateau, le soulève et l'écrase. Et le bateau fait naufrage sur la banquise. C'est ce qui s'est passé dans les deux histoires que je vais vous raconter. L'une s'appelle la Jeannette et l'autre s'appelle l'Endurance. La Jeannette, c'est une expédition américaine en Arctique. Alors, tout de suite, vous allez me dire, expédition américaine en Arctique, et le bateau s'appelle la Jeannette. Eh bien, oui. Elle a été financée par le propriétaire du Herald, qui avait financé l'opération Stanley Livingstone, qui voulait refaire un grand coup de ce genre. Et cette personne vivait à Paris. Et donc, je pense qu'il devait avoir une maîtresse qui s'appelait Jeannette, et avait donc fait baptiser ce bateau la Jeannette. J'ai mis un temps fou à démonter cette histoire, à comprendre pourquoi il s'appelait la Jeannette. Qu'importe. Toujours est-il que ce bateau, donc, c'est la marine américaine, discipline très forte. Ils sont partis. Alors oui, je vais vous montrer sur la carte à peu près ce que ça donne, parce que c'est très difficile à comprendre le problème de l'Arctique, parce qu'on n'a pas en tête la géographie. Le monde, on le voit comme ça, mais là, il faut le regarder d'en haut. Alors, en fait, ils vont entrer par le détroit de Bering, donc entre Amérique et Russie. Alors, bon, voilà. Ils vont entrer par le détroit de Bering qui est ici. Et leur idée, c'est de s'approcher le plus possible du pôle. Et là, avec des attelages, chien, ski, monter vers le pôle Nord. Bon, en fait, à peine passé le détroit de Bering, ils sont pris dans la glace et ils découvrent que la banquise dérive et les emmène dans un premier temps vers le pôle. Donc, ils se disent, ben, hivernons, on sera plus près du pôle, on partira à ski, etc. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Un hiver, un hivernage. Un été, le bateau ne décolle pas. Deuxième hivernage, deuxième été, ça ne le fait pas. Troisième hiver, le bateau est écrasé. Et donc, la seule solution pour s'en sortir consiste à prendre les embarcations du bord, en l'occurrence, trois canots dont le plus grand doit faire 8-9 mètres, le plus petit 6-7 mètres, fabriquer des traîneaux, poser ces canots sur les traîneaux, à l'intérieur de ces canots charger de la nourriture, des vêtements, des tentes, etc., et s'atteler à ces machins, parce que les chiens, on les a déjà mangés, s'atteler à ces traîneaux pour rejoindre la mer. Et là, une fois qu'on aura atteint la mer, on mettra les bateaux à l'eau. Et avec ces bateaux, on essaiera de traverser la mer Arctique pour toucher le nord de la Sibérie vers l'estuaire de la Léna. Ce qui se passera, ce sera épouvantable. Après, je reviendrai sur les détails de l'organisation qui est absolument parfaite. Mais sur les trois canots, le plus petit va chavirer. Les deux autres vont toucher terre en des endroits très séparés de la Sibérie. Ils vont trouver du secours, mais épouvantablement n'arriveront jamais à se faire comprendre, qui tombent sur des Russes qui ne parlent que russe. Et lorsqu'ils arrivent à retourner vers les naufragés, ceux qui sont restés derrière, tout le monde est mort. Sauf qu'ils auront tenu un journal jusqu'au bout, et le survivant trouvera le journal écrit, il le ramènera à Paris, où il sera publié en français avant d'être publié en américain. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans une discipline militaire, parce que ce bateau, c'est la marine américaine, comment ils vont gérer cette affaire de situation de survie. L'équipage est tout de suite divisé en trois, pour embarquer dans chacun de ces canots, et devient une espèce d'entité indépendante, avec, ils se fabriquent pour chacun d'entre eux leur devise, dans le style « nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts », selon des conneries, avec leur petit drapeau et un règlement béton. Alors avant de partir, ils se refont des vêtements neufs, ils prévoient un emploi du temps extrêmement strict, jour par jour, exactement comme s'ils étaient sur le bateau. Moyennant quoi, en s'obligeant à avoir une discipline, je dirais, de caserne, comme s'ils étaient donc sur leur bateau ou à terre, sauf qu'ils sont sur la banquise en train de survivre. Et ben, ils progressent avec une régularité. C'est pas très rapide, mais ils progressent, touchent la mer. Et puis là, ben, la nature sera la plus forte, malheureusement. Il y a ceux qui feront naufrage et puis les deux autres qui arriveront et qui mourront d'épuisement. C'est le côté terrible. La même histoire est arrivée à Shackleton, cette fois-ci en Antarctique. Mais là, en revanche, 100% positive l'histoire. Alors, l'histoire en Antarctique, c'est encore plus bête que ça. Il s'agissait, ben, ça nous ramène à l'histoire de Scott, vous connaissez l'épouvantable histoire de la conquête du pôle Sud. Donc, Amundsen, le Norvégien, avec son équipe hyper entraînée, qui sont des grands skieurs depuis toujours, qui mènent des attelages de chiens depuis toujours, et pour qui le raid vers le pôle Sud est une véritable balade. Le récit, on a l'impression de lire un récit de randonnée. Et Scott, les Anglais, qui ne veulent pas de chiens de traîneau parce que c'est s'avilir que de conduire des chiens, expliquez-moi pourquoi, qui n'ont pas voulu vraiment apprendre à skier parce que l'être humain est fait pour marcher sur ses pieds, non pas sur des planches, enfin ce genre de conneries, et qui donc se mettront dans la trace, atteindront le pôle, ce qui était ridicule à faire, puisqu'ils savaient pertinemment que s'ils l'atteignaient, ils n'en reviendraient pas. Et c'est bien ce qui s'est passé. Ce qu'il y a de fou, en revanche, c'est qu'ils sont morts à 20 000, c'est-à-dire 30 km, d'un premier abri où ils avaient laissé des vivres. Donc, ils ont même failli réussir à faire l'aller-retour. Shackleton, dont je vais vous parler là, avec son expérience de survie hallucinante, avait déjà fait une expédition au pôle, et lui avait eu un réflexe fabuleux. Arrivé à 100 km du pôle sud, c'était donc avant même qu'on ait atteint le pôle nord, il avait fait le calcul. Il avait dit, on peut y arriver, mais on n'en reviendra pas. Et il avait dit à son équipe, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je préfère un âne vivant à un lion mort. Donc, on se casse, on rentre. On y était presque. Je trouve que humainement, c'est ce qu'il y a de plus fou à faire. J'ai pour ma part un peu d'expérience d'alpiniste. Renoncer à un sommet parce qu'on sait qu'il y a une petite chance de le regretter toute sa vie, c'est une décision pas facile à prendre. Mais quand on le fait pour soi, c'est rien. Là, c'était l'honneur de l'Angleterre qui était en jeu, peut-être. Je trouve ça extraordinaire. Voyez dans quoi, Scott, il n'est jamais revenu. Ça reste un héros pour tout le monde. Ça avait été un tel déchirement en Angleterre, la mort de Scott, et une telle vexation. Parce que n'oubliez pas que la Norvège est un pays qui est né en 1905. Pour l'Empire britannique, être battu dans la conquête de la planète, la conquête du pôle sud, par un petit pays qui arrive, c'était une vexation, mais c'était terrifiant, ils ne pouvaient pas s'en remettre. Donc la seule solution, c'était qu'il fallait faire mieux que Amundsen et donc faire une traversée intégrale du pôle, d'où l'expédition que devait mener Shackleton. Et là donc, comme je vous l'ai dit, la solution du bateau qui est pris dans les glaces et qui explose, c'est ce qui leur arrive. Donc ils font comme sur la Jeannette, on met les bateaux, les embarcations sur des traîneaux, on pousse les traîneaux, on rejoint la mer, et puis là, sur la mer, il n'y a plus rien. Après, il faut atteindre l'Amérique du Sud. Il y a une petite île un peu plus loin qui s'appelle l'île Éléphant. Ils y vont. Et là, sur l'île Éléphant, il y a deux solutions. L'île Éléphant, c'est le tout petit point qui est ici, là, on le voit à peine. Soit ils vont à la terre la plus proche, je vous le dis en kilomètres, qui est à 500 km, mais ce n'est pas sûr d'avoir un vent favorable. Soit ils vont beaucoup plus loin, ils sont presque sûrs d'avoir un vent favorable, mais c'est trois fois plus long. C'est la Géorgie du Sud. C'est ce qu'ils vont faire sur un tout petit bateau qu'ils ont réaménagé complètement, qui est exposé au musée maritime de Londres d'ailleurs, et ils vont atteindre cette île avec 6 personnes à bord, laissant tout l'équipage à les attendre sur l'île Éléphant. Ils arrivent en Géorgie où se trouve une masse de baleiniers. Manque de chance, ils arrivent du mauvais côté de l'île. Il faut franchir une montagne. Ils la franchissent, ils descendent de l'autre côté, trouvent un bateau de secours, retournent chercher leurs petits camarades. Pendant ce temps-là, la Première Guerre mondiale s'est développée en Europe. Quand ils arrivent, il y a déjà des millions de morts. Et bien, tenez-vous bien, tous les membres de l'équipage, sauf Shackleton qui est malade, qui n'aura pas le droit de s'engager, ils vont tous s'engager, ils vont tous mourir dans les tranchées. C'est malin. C'était la deuxième histoire. Et nous pouvons donc maintenant revenir à travers nous cet ensemble à nos fondamentaux. C'est vous qui m'avez parlé de Tromelin. Triste histoire de Tromelin. Alors là, en revanche, sur la survie, c'est un mystère. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est une histoire qui date du XVIIIe siècle. C'est la grande époque de la traite négrière. Et sur l'île de ce qui s'appelle actuellement la Réunion, se monte une opération de traite de contrebande. Un bateau est affrété avec l'argent du gouverneur, des gros planteurs, etc., pour aller acheter discrètement des esclaves à Madagascar et là, les ramener non pas à La Réunion, mais sur une petite île perdue de l'océan Indien pour s'en faire une petite réserve et les ramener petit à petit quand le cours de l'esclave sera le plus profitable. Ben oui, quand on engage des capitaux, on raisonne en termes de marché, évidemment. Et puis, ben, il arrive le truc invraisemblable. En cours de route, pile sur la route, il y a une île qui s'appelle Tromelin, qu'on appelait l'île de sable à l'époque, qui est à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et une nuit, ils se mettent droit dessus, le bateau explose, avec leur cargaison d'esclaves. Alors bah, là, justement, le capitaine ne sait pas faire face. En plus, il se rend compte qu'il est ruiné. Si on vient les chercher, cette histoire d'esclaves, de contrebande, ça va lui coûter très cher. Donc, il devient fou et c'est en fait de jeunes officiers, voire second maître, qui vont, avec des esclaves, construire un bateau. Et là, vachement sympa, tous les Blancs vont partir chercher du secours en promettant aux malheureux esclaves restés sur l'île. Vous inquiétez pas, on revient vous chercher dès que... Bon. Ils arrivent à La Réunion, mais là, le gouverneur dit « Esclaves, on n'en parle plus. Quoi, quels esclaves, où ces esclaves ?» Il n'est pas question d'aller chercher ces gens qui sont la preuve de leur malhonnêteté, et donc ils les abandonnent. 14 ans vont se passer jusqu'à ce que le gouverneur soit changé, soit mis au courant de l'affaire, et c'est un jeune officier de marine français qui s'appelle Tromelin qui, le premier, réussira à débarquer sur cette île. Et il y avait encore 4 ou 5 survivants, dont un enfant qui était né pendant. On est donc des archéologues français, menés par un certain Max Guérou, ont fait plusieurs opérations archéologiques pour comprendre comment ils ont pu survivre, et on ne sait toujours pas. Sur cette île où il n'y a rien, à peine un peu d'eau saumâtre. Je vous allez sur Google Earth et tapez donc île Tromelin. Vous aurez des vues assez étonnantes de ce machin où il n'y a rien. Donc ça, c'est en revanche une histoire bien triste. On ne sait pas. Sur île où il n'y a rien, pour qu'ils aient eu le temps de se reproduire, c'est schématiquant, parce qu'il y avait deux bébés, je crois, c'est qu'ils ont réussi à reconstruire quelque chose. Et manifestement, on a trouvé des traces de ce qui a pu être des logements, mais enfin des cabanes. Mais ça, c'est le problème alimentaire. Comment ont-ils pu pêcher ? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, en plus, cette histoire est restée inconnue pendant longtemps parce qu'une romancière dont je cherche le nom depuis tout à l'heure, qui a écrit Les Esclaves de Tromelin, avait eu accès au texte écrit par l'archéologue qui avait repris en fait le journal de bord du secrétaire du bateau. Il a menacé de procès s'il le publiait, jusqu'à ce que moi-même, mon éditrice, rencontre cet archéologue qui dit « J'aimerais bien publier ce texte, mais je suis menacé de procès. » Elle dit « Mais non, vous avez tous les droits sur ce texte et c'est comme ça qu'on a pu le publier. » Mais on a donc tout le récit du naufrage, de la construction du bateau, de l'expédition de secours après, mais comment ils ont survécu, ça, on ne sait pas. C'est très frustrant. Alors, ce qui est amusant, c'est le réflexe de vouloir retrouver la société que l'on connaissait, mais c'est plutôt une société familiale qu'on veut reconstruire, plus qu'une société politique. Maintenant, peut-être que c'est parce que les gens n'étaient pas assez nombreux non plus. Il n'y a pas la volonté d'essayer de faire autrement. J'évoquais tout à l'heure avec Vincent une expérience qui va se faire prochainement sur les capacités cognitives du cerveau en situation extrême, où on va prochainement, quand je dis on, c'est un projet scientifique qui a été lancé, de mettre un groupe d'individus de moins de 40 ans successivement dans les quatre milieux naturels les plus hostiles, c'est-à-dire le grand froid sec, le grand froid humide, la grande chaleur sèche, la grande chaleur humide, pour voir comment, en situation extrême, le cerveau est capable d'inventer des méthodes d'adaptation. C'est-à-dire le moment où tout ce que l'on sait en théorie de la façon dont on appréhende un climat nouveau. Les spécialistes de la survie savent qu'en climat chaud, il faut ne jamais exposer le corps au soleil parce que l'humidité s'en va, il faut au contraire s'envelopper. La tenue des Touaregs, pour ça, est bien typique. Et quand on l'expérimente soi-même, c'est tout à fait frappant. Le chèche vous sauve un homme, etc. Mais au-delà de ça, il y a un moment où on ne sait plus, et c'est ça qui va être recherché. Dans l'expérience que je vous racontais tout à l'heure de mon propre naufrage raté, si j'ose dire, j'ai après dû renaviguer sur un bateau du même genre dans le même coin pour amener le bateau neuf. Et j'étais très handicapé intellectuellement parce que je savais que je m'étais sorti de ce coup de chien qui avait dépassé tout ce que je pensais pouvoir exister. Mais j'avais la conscience terrible de savoir que si ça recommençait, je n'étais pas plus armé qu'avant pour y faire face. C'est-à-dire que je ne savais pas si j'en avais tiré une expérience quelconque, si je savais que j'étais capable de résister, quoique. Et j'y ai repensé par rapport à la bataille de Verdun, où on dit qu'il y a eu une noria pour amener des troupes fraîches en permanence à Verdun. En fait, l'état-major français avait eu une idée lumineuse. Humainement, il s'était dit, un soldat qui a vécu Verdun, s'il quitte le front, il préférera se suicider que d'y retourner. Donc, on allait une fois à Verdun, on en sortait vivant ou pas, mais on n'y retournait pas. Personne n'a quitté le champ de bataille et est revenu. Et c'est pour ça que toute l'armée française a défilé à Verdun. Et curieusement, c'est une chose que les historiens ne développent pas. Je suis tombé dessus tout à fait par hasard. C'est Pétain, en l'occurrence, qui avait eu cette préscience. Un type qui avait connu Verdun, s'il en sortait, il n'y retournerait pas. Et là, effectivement, on est dans la situation de survie. Est-ce qu'un individu qui a survécu à quelque chose est apte psychologiquement à le revivre? Ce serait à démontrer. Oui.
On perd son statut d'être humain parce qu'on devient une marchandise. Oui. Et donc, dans l'histoire des esclaves, la survie mystérieuse peut être aussi comprise comme des gens qui sont directement positionnés comme étant au cœur d'une traite, dans une situation de crise radicale. De toute façon, la question de l'esclavage comme des questions de destruction radicale de l'humanité pose toujours la question très épineuse de la survie. Pour Auschwitz, la question qu'on ne peut pas poser mais qui est très profonde, c'est comment on survit à ça, c'est-à-dire d'être en situation quelque part dès le départ, parce que si en fait ça réussit, ce transport maritime, c'est les seuls qui perdent dans tous les cas de figure. Soit il y a un naufrage et ils perdent, soit il n'y a pas de naufrage et ils perdent. Donc quelque part, ils développent une acuité de la relation à la mort, la relation à la situation de crise, qui fait que peut-être qu'ils ont une espèce d'expérience de la situation extrême.
Ça c'est sûr. Pour développer l'interrogation sur, par exemple, les survivants des camps de concentration ou aux situations de survie extrême, une des problématiques que pose la situation de survie, et ça, quelle qu'elle soit, c'est que l'individu qui est confronté doit admettre que brutalement, la situation a changé et qu'il est en situation de survie. Alors, ça n'a l'air de rien, mais ça peut être la balade en montagne où la nuit va tomber, on est égaré, pas encore perdu, on est égaré, etc. Si on n'a pas le réflexe de dire « attention, là, à partir de maintenant, où on est, tout a changé ». La question n'est plus de savoir si on va rentrer pour le dîner de 20h à l'hôtel. La question est de savoir si on va passer la nuit vivant ou mort de froid. Et basculer intellectuellement de la problématique numéro un d'être à l'heure pour dîner à celle d'être mort le lendemain n'est pas évident du tout. Il faut décider que tout d'un coup, alors quand on est seul, ça va, quand on est deux, l'un dit à l'autre, mais si vous êtes un groupe d'amis, qui va être le premier qui va oser dire aux autres, attention là, il ne faut pas qu'on continue à avancer sans être sûr qu'on est bon, parce que si on est perdu dans le noir, c'est pas sûr qu'on se passera la nuit vivant. Donc il faut qu'on s'arrête tout de suite pour établir un bivouac de façon à savoir comment on ne va pas mourir de froid. C'est prendre la décision d'accepter qu'on est passé de la vie normale à la vie anormale qui vous sauve ou pas. Et c'est intellectuellement un passage qui est très 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 difficile à vivre. Le premier qui ose le dire, c'est pas facile, hein. Dire c'est plus ce que c'était.
Dans les récits là que vous avez cités, est-ce que les narrateurs font mention de ça, des questionnements qu'ils ont au niveau psychologique, des interrogations, parce que au niveau après des récits, les publications, est-ce que vous vous êtes penché sur dans quel contexte ils ont été édités? Parce que si c'est lié à un gouvernement, bien évidemment, ils vont pas mettre en avant une autre façon de penser la civilisation, ou ça va rentrer, c'est une sorte de propagande aussi, de revenir sur une terre où il y a déjà un schéma.
Non, je dirais pas de propagande, mais d'éducation.
Ça rentre dans un système.
Oui, mais c'est un système qui est d'ordre social, je dirais, plutôt que politique. Par ailleurs, la notion de survie, et c'est ça qui est tout à fait étonnant, je pense au Grafton et à la Jeannette, c'est que, comment dire, il mesure à la fois l'extrême péril dans lequel il se trouve, donc l'idée d'aller chercher des miroirs pour pouvoir continuer à se regarder dans la glace et rester humain, et dans le même temps, ils agissent manifestement par réflexe, par intuition. Et c'est ça que je trouve complètement dingue. Alors après, effectivement, dans le mode narratif, ensuite, quand il rentre et qu'il raconte, tout est possible, mais moi je pense que le côté naturel de ces gens, et leur vécu aussi, parce que pour nous, leur histoire paraît complètement folle, mais eux, c'était des navigateurs, c'était des baroudeurs. Se trouver en situation de vie ou de mort, ça a dû leur arriver à chacun d'entre eux une dizaine de fois avant. Donc,
il faut aussi mettre dans ce contexte-là un rapport au confort et à la vie.
Tout à fait différent. Tout à fait différent. Tout à fait. Alors en plus, ça se passe dans les hautes latitudes sud, où les conditions de vent, de froid sont terrifiantes. Donc la vie déjà normale est déjà extrêmement dure. Donc à la limite, se trouver en situation de survie, pour nous, c'est un peu plus dur, mais ça n'a rien de. Ce n'est pas un très grand pas. Il faut aussi voir ça. Mais je pense que dans les deux récits que je vous cite là, aucun d'entre eux n'avait de volonté. Alors, si, Rénal écrit, dans sa préface, il le dit, il l'écrit pour que son texte puisse profiter à des gens qui un jour connaîtraient une situation comparable. Et donc, pour lui, c'est un devoir de le raconter pour que ça puisse servir à quelqu'un. Il est ça dans sa figure, dans sa préface, oui. Mais il y a. Dans votre propos, on a une littérature tout à fait différente et politiquement orientée. C'est celle de la conquête des grands sommets des Alpes dans les années 30, avec l'Allemagne nazie qui envoie de véritables alpinistes suicidaires pour la grandeur du Reich. Et à la libération, à l'inverse, la France qui va mener cette expédition de l'Himalaya avec Herzog qui laissera derrière ses doigts, par pur nationalisme. Et quand on lit ces récits aujourd'hui, ce n'est pas du tout de l'exploit sportif ou d'aventure, c'est du nationalisme pur jus. Et dans le texte, ça ressort avec une puissance terrifiante. Mais là, en l'occurrence, sur ces textes-là, non. Ce n'est pas le cas. Mais ça aurait pu l'être.